Oui, bonjour, Claire de Paris. Je vous appelle à propos des manifestations étudiantes, des lycées bloqués. Ça fait 2 mois, voire beaucoup plus pour certains, et on n'en parle absolument pas nulle part. Et là, ce matin, aux surprises, dans 20 minutes, 3 articles dessus. Donc, je suis ravie. Je vous lis des extraits de ces articles. 17 personnes ont été interpellées hier lors d'incidents en marge de manifestations lycéens. Des jeux de consoles ont été volés. Deuxième article, perturbation sur la ligne 13. Plusieurs lycéens manifestants sont également à l'origine de nombreux dysfonctionnements sur la ligne 13. Troisième article, une nuée de voleurs dévalise les rayons du H&M. L'article se termine par 3 jeunes ont ensuite été interpellés en marge des manifestations de lycéens en possession d'articles volés. Donc enfin, on parle de ces manifestations. S'il vous plaît, faites quelque chose, parce que là, ça me rend malade. Il y a tellement de bonnes choses à dire, tellement d'élèves qui se battent pour des bonnes choses, et on ne parle que des dissidents, que des élèves qui en profitent, parce qu'évidemment, il y a des élèves qui en profitent. Mais s'il vous plaît, parlez-en de manière intelligente. Allez interviewer les lycéens devant les lycées. Allez interviewer les lycéens qui se battent, qui y croient et qui ne volent pas chez H&M ni des consoles de jeux. S'il vous plaît, faites quelque chose. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Donc, je vous en prie, là, ça me donne envie de pleurer ou de crier. Je vous remercie énormément. Merci pour toutes vos émissions et parlez de ça parce que là, on n'en peut plus. Ça fait 2 mois qu'on n'en parle pas et on en parle pour dire que les élèves vont voler dans les magasins. Donc, il y a tellement d'autres choses à dire. Faites-le. Merci.
Salut Daniel, c'est Thibaut du Tchapas. Bonjour à toi et à toute l'équipe. Là, je t'appelle de Saint-Christophe de Las Casas. Avant tout, pour une petite chose, remercier pour toutes les émissions qui sont toujours très bonnes, là, qui arrivent jusqu'ici en podcast. Je la télécharge pour l'écouter presque tous les jours. Là, c'est comme un petit rituel, en mangeant le midi, en préparant la bouffe. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles vachement plus intéressantes que ce qu'on lit sur lemonde.fr ou je ne sais quoi. Et puis, ouais, je profite de tes émissions sur la frontière mexicaine avec les États-Unis qui sont toujours très intéressantes pour rajouter un petit peu quelques informations qu'on a jusqu'ici, parce que quand tu traites de la question de l'immigration, je sais que tu peux pas aller partout dans le monde et faire tout en même temps, mais il y a des choses qui sont en relation directe ici au Chiapas. Et par exemple, le fait que 10% des gens qui migrent, des Mexicains qui migrent, viennent du Chiapas, quoi, c'est vraiment énorme. Ça veut dire environ 165 personnes par jour qui migrent, selon les chiffres qu'on a ici dans l'organisation. Et dont presque les 2/3 sont des paysans, des indigènes, sans jamais un niveau d'éducation très élevé, et qui partent, comme tu dis, chercher une vie meilleure, quoi. Et il y a des gens ici au Chiapas et ailleurs qui disent que le Mexique, c'est comme une cocotte minute, quoi. Et que cette cocotte minute, s'il n'y avait pas espèce de soupape qui est la frontière à travers laquelle les gens passent et continueront à passer, sans ces trous à travers le mur, là, cette cocotte minute, elle exploserait, il y aurait une révolution, il y aurait quelque chose d'énorme, quoi. Donc pour l'instant, ça tient parce que les gens peuvent continuer à passer à travers ce mur.
Salut à toute l'équipe. Je suis en train d'écouter votre émission. Elle m'arrache le cœur. Alors, je ne sais pas s'il y a une solution pour cette pauvre dame. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, j'en suis bouche bée.
Ce mercredi 9 avril 2008, Édouard Balladur reçoit le prix de la liberté décerné par l'Institut Turgot. L'Institut Turgot, comme d'ailleurs l'Institut Montaigne, est un club de réflexion qui entend rassembler tous les courants du libéralisme français. Il est composé de personnalités éminentes, comme Claude Bébéard, fondateur du groupe d'assurance AXA, et qui est surnommé le parrain français du libéralisme économique. Alors pourquoi Édouard Balladur, maintenant âgé de 79 ans, mérite-t-il tant d'honneur? Parce que ce fils de banquier a su convaincre les milieux financiers qu'il était l'homme politique dont ils avaient besoin. La révolution économique libérale de Reagan et de Thatcher dans les années 80 tardait à apparaître en France, et Édouard Balladur ferait passer dans le droit français la libre circulation des marchandises et des capitaux dans le monde entier et la réduction importante des services publics. Effectivement, en 2 occasions, de 86 à 88 comme ministre des Finances et de la Privatisation et de 93 à 95 comme Premier ministre, il a jeté les bases de cette politique libérale. Enfin, en 2007, c'est son poulain Nicolas Sarkozy qui accède à la fonction suprême et qui lui confie la présidence du comité de réflexion sur les institutions. Je suis prêt à parier que Nicolas assistera à la remise de son prix dans les salons du Sénat.
Il en est informé en plus, hein, dans la base, si j'y suis, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux, d'informations qu'on n'entend pas forcément partout ailleurs. Aujourd'hui, on continue la balade le long de la frontière. On est arrivé à Tijuana et on va se pencher sur les corridos. On a déjà fait une heure sur les corridos, mais là, c'est le narco-corrido. Ah, qu'est-ce que c'est les narco-corridos ? Il y a une chose dont on n'a pas ou peu, très peu parlé au cours de cette suite de reportages, c'est les narcotrafics. Très, très important au Mexique, c'est quelque chose qui se développe. Le narcotrafic se développe, il y a une forte hausse du trafic de drogue, de la corruption liée à la drogue. Il faut rappeler que le Mexique est le premier producteur mondial de marijuana et de cannabis, le deuxième producteur d'opium des Amériques. 80 à 90% de la cocaïne consommée aux États-Unis passe par le Mexique. Et c'est l'un des plus importants carrefours pour toutes les drogues destinées au marché états-unien, marijuana, héroïne, cocaïne, amphétamine, hallucinogène. Le Mexique est le premier producteur de méta-amphétamine, etc. Évidemment, tout ça, ça a créé du trafic, ça crée des cartels, ça crée des bandes qui s'affrontent très très violemment et qui terrorisent des régions entières, étendent la corruption à tous les éléments, à tous les corps du pays, à tous les corps de l'État, la police, le monde politique. Et tout ça, ça se reflète dans les corridos, dans ces chansons qu'on a rencontrées, qui sont des chansons à forme fixe, mais qui racontent des histoires très très précises, qui sont autant de reflets, de miroirs de la vie quotidienne au Mexique, et surtout le long de cette frontière. Alors on a un ami qui va nous, historien un peu de l'histoire des corridos, qui va nous fixer un peu les choses, et puis auparavant on ira dans un endroit qu'on a adoré au cours de ce reportage. C'est un journal qui s'appelle El Mirador. Je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise. Et voilà, auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Alors, comme ça, il y a un élu vert qui aurait essayé d'attraper la flamme et puis on est obligé de l'éteindre. Là, le gars, là, ça y est, il a fait sa révolution dans 20 ans, il s'en souviendra. Il aura fait éteindre la flamme olympique. Sérieux, ça va changer le monde, là, je le sens. Hein. Pendant ce temps-là, on continue à poursuivre les sans-papiers à Paris. Il y a eu 10 000 personnes à la manif, personne n'en a parlé, tout le monde s'en fout. Hein, vous distribuez des tracts pour les sans-papiers dans les écoles, là, tout le monde est absolument avec vous parce qu'ils connaissent les gens, alors ils se sentent concernés. Mais alors, dès que vous commencez à les distribuer au métro et tout ça, c'est carrément l'indifférence, au moins une personne sur 4 ou 5. Et encore, les autres, c'est juste gentil. Et voilà. Voilà le moment dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'on est là en train de faire la leçon à la Chine, et pendant ce temps-là, on est en train de poursuivre, tiens là, aujourd'hui je lis, 3e arrestation pour Madame Zhou depuis le octobre, c'est sur la liste RSF Paris-Est, hein, tout le monde peut, les gens qui participent peuvent le voir, Madame Zhou elle a été arrêtée pour la 4e fois, voilà, elle a des petits-enfants qui sont à l'école, à Paris, et c'est la poursuite comme ça des Chinois partout en France, et surtout à Paris, et puis on les renvoie avec perte et fracas dans leur pays, puis pendant ça, là, nous, on donne des leçons de droits de l'homme. Franchement, c'est n'importe quoi, il faut arrêter de rentrer tous dans ce même trip et de hurler avec les loups. Françoise de Paris.
Bonjour, je voudrais vous lire un petit texte qui a été écrit par Pierre Bourdieu en 1996, donc il y a exactement 12 ans. Et je voulais vous le lire en ce moment, parce qu'il permet de voir le chemin qui a été parcouru depuis 12 ans. Le texte s'appelle, c'est un tout petit texte, « Combattre la xénophobie d'État ». Il y aurait beaucoup à dire et à redire sur la politique estivale du gouvernement et pas seulement en matière d'accueil aux étrangers. Mais la dernière mesure de M. Debray est exemplaire par son absurdité qui fait éclater l'incohérence d'une politique toute de grossière démagogie. Au lieu de régulariser les 300 sans-papiers de Saint-Bernard à Paris qui se battent depuis le mois de mars pour obtenir des titres de séjour, le ministre de l'Intérieur a fait hospitaliser de force le 12 août les 10 étrangers qui, au nom de tous les autres, mènent depuis une quarantaine de jours une grève de la faim. Selon l'avis des médecins, leur état de santé n'inspirait encore aucune inquiétude. Il s'agit donc d'une simple démonstration de force destinée à prouver la détermination répressive du gouvernement. Cette intervention est absurde. Elle ignore l'ampleur du désarroi de milliers d'étrangers qui pourraient être privés de papiers, ne sont pas pour autant des clandestins. Anciens demandeurs d'asile, issus de pays de violence, conjoints et enfants d'étrangers en situation régulière, privés du droit de vivre en famille, ils sont légitimement présents en France depuis de nombreuses années et ont multiplié en vain les démarches pour obtenir un titre de séjour et de travail. Depuis le printemps, une vingtaine d'occupations de locaux et de grèves de la faim sur l'ensemble du territoire national ont porté sur la place publique la détresse de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui, avant d'en venir à ces actes extrêmes, avaient épuisé tous les recours. Il n'y a pas d'autre issue aujourd'hui qu'une régularisation de la situation de ces étrangers qui, au cours des 20 dernières années, ont été pris peu à peu au piège de lois de plus en plus dures, fondées sur le mythe irréaliste et liberticide de la fermeture des frontières. Comment obliger le gouvernement à rompre avec cette politique criminelle par ses motivations et sa stupidité qui nous engage tous ? Comment combattre la xénophobie d'État qui l'institue et qui, par l'effet de l'accoutumance, risque de s'imposer peu à peu comme un dogme? Comment empêcher que la plus honteuse des démagogies ne s'installe par procuration au pouvoir? L'appel à des jeûnes de solidarité menés dans toute la France en vue d'obtenir la régularisation de la situation des sans-papiers de Saint-Bernard et des étrangers placés dans des situations similaires me paraît donner une première réponse à ces questions. La solidarité avec les étrangers menacés dans leurs droits, leur dignité, leur existence même, peut être le principe d'une nouvelle solidarité de tous ceux qui entendent résister à la politique de la bassesse. Voilà, c'est un texte qui a été écrit par Pierre Bourdieu il y a 12 ans, en août 1996. Je pense que sa lecture, avec 12 ans de décalage, est une bonne chose. Voilà, bonne journée, au revoir.
Bienvenidos a México.
Moi j'aime bien les corridos, parce que ça raconte la réalité de notre pays.
Oui, moi aussi je les aime bien, parce qu'on y chante la pure vérité. Alors mêlez.
Ok, c'est parti.
El corrido, por ejemplo, pensamos que es una historia que no puede ser de amor, por ejemplo.
En général, les corridos ne nous racontent pas des histoires d'amour.
Si interviene el amor, por lo regular es seguido de la traición, que es un elemento muy dramático.
Alors si on doit parler d'amour dans un corrido, il faut que suive la trahison. Il faut qu'il y ait cette évolution dramatique.
Y la enamorada va a traicionar al héroe del corrido.
Et l'amoureuse finira par trahir le héros du corrido.
Salut, c'est La Basse, j'y suis, Daniel Mermet avec Antoine Chao et Guy Van Til. Bienvenue à Tijuana, Narco Corrido.
On est à Naco du côté mexicain. On est tombé sur le patron de El Mirador,
Rodolfo Santos,
voilà,
qui est le patron du journal. Et toute la rédaction se tient dans cette pièce. Hein, c'est une pièce avec, il y a trois ordinateurs, il y a trois sièges, il y a tous les journaux sont là, la documentation, tout se fait ici. Alors, c'est un quotidien, c'est un journal quotidien?
Non, cada 15 días.
Non, c'est tous les 15 jours.
À tous les 15 jours. Quand est-ce qu'il a été créé, le journal?
Tenemos 4 años y medio ahorita.
Ça fait 4 ans et demi maintenant.
4 ans et demi. Et c'est vous qui l'avez créé?
Mi esposa y yo.
C'est ma femme et moi.
Et combien vous tirez d'exemplaires?
1500.
1500 tous les 15 jours.
En México, 7 pesos.
Alors, au Mexique, c'est 7 pesos.
En Estados Unidos, 1 dollar.
Et aux États-Unis, 1 dollar.
C'est 30% moins cher au Mexique, quoi.
Tenemos el carro de sonido ahí, uno de los carros de sonido.
Alors là, tu vois, on a une voiture avec une sono dessus pour faire des annonces.
Improvisado, ¿no? Para vender.
Bah, on l'a improvisé, mais au moins, on fait de la promotion.
Sí, el periódico. Por ejemplo, guerra, guerra al narcotráfico en la región. Decomisa los federales, marihuana, heroína. Y la policía estatal más marihuana en Naco. Venga por su periódico, El Mirador. A solo 7 pesos el ejemplar.
C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on annonce.
Donc un poquito de corrido et l'autre se mette la noticia.
D'accord, on met un petit morceau du corrido et puis après on annonce les nouvelles.
Ah voilà, le corrido.
Il surprend et il suscite l'émotion de mes frères. Les événements qui se passent ici dans notre petit patelin. Et que nous tous vivons ici. Comme ça, ces faits ne sont pas occultés. Et de tous ces faits, il y a des informations. Et quand Rodolfo Santos arrive sur place, son travail est d'écrire son papier. Le Mirador, ça c'est du journalisme. Et dans la région, c'est le meilleur. Avec le Mirador, nous ne sommes plus sourds. Le Mirador nous fait réfléchir. Le bandage que nous avions sur les yeux, c'est le Mirador qui nous l'a enlevé.
Et voilà, Rodolfo Santos dans sa voiture avec son haut-parleur dans les rues de Naco et qui fait la pub pour son journal qui crie les titres comme autrefois. C'était, on entendait ça dans Paris, dans ma jeunesse, dans mon enfance. Je me souviens des gars qui hurlaient les titres comme ça. Et bien c'est ce que fait aujourd'hui, toujours, Rodolfo Santos dans sa voiture. Il arpente les rues de Naco et il annonce les titres. Alors la rédaction de El Mirador doit faire 12 mètres carrés, 4 mètres sur 3, c'est la dimension à peu près de la pièce. Et la rédaction se compose de Rodolfo Santos, de son épouse, très souriante et très sympa, et puis les gosses, les deux enfants qui donnent un petit coup de main de temps en temps, un peu pour tout, que ce soit pour saisir les textes, pour faire des photos, toute la famille s'y met. Et n'empêche que le Rodolfo Santos, il sait énormément de choses, parce que à Naco, l'activité, c'est le migrant qui attend, qui est le poulet dont on a tellement parlé au cours de ce voyage, qui constitue presque la ressource. Mais la grande activité dans toute cette région et dans une grande partie du Mexique, c'est les narcotrafics. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui à travers ce que va nous dire Rodolfo Santos avec toute la prudence qui sied à un journaliste qui espère rester vivant. Mais on aura dans les narcos corridos, dans les chansons, des échos très précis de ce que sont les narcotrafics au Mexique le long de la frontière. C'est jusqu'à 16h, c'est la Pacifique.
Hola, ¿qué tal? Mira, estamos realizando una especial.
Bonjour, comment ça va? On fait une spéciale sur les corridos. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit interdit à la radio? Dis donc, mon pote, ils sont peut-être interdits à la radio?
Nunca.
Mais pas dans mon camion. Jamais. La Cruz de Marihuana. Los Tigres del Norte. Quand je tomberai mort, érigez-moi une croix de marijuana. Avec 10 bouteilles de vin et un jeu de cartes cloué. Et quel a été mon destin si l'on m'aventurait sur les chemins malfamés? Et dans mon cercueil de qualité, je veux mes armes comme trésor. J'ai profité de tout dans la vie. Bijoux, femmes et or. Je suis narcotrafiquant. Et je connais le prix de la poudre et de la poussière. Sur ma tombe, érigez-moi une croix de marijuana. Je veux ni larmes ni prières, et encore moins nos terres sacrées. Enterrez-moi dans la montagne avec les lions de ma horde. les amis.
Et que cette croix de marijuana, on l'arrose des meilleurs liqueurs. Et ça, les 7 jours de la semaine. Et que l'on me joue mes odes avec la musique norteña. Et que l'on me chante mes chansons. Sur ma tombe, érigez-moi une croix de marijuana. Je ne veux ni larmes ni prières, et encore moins de terre sacrée. Enterrez-moi dans la montagne avec les lions de ma horde.
Comment tu as commencé à faire du journalisme?
Tomamos cursos de periodismo, tomamos un curso de periodismo en Agua Prieta.
On a pris des cours de journalisme à Agua Prieta.
Primero era reportero de un periódico en Agua Prieta.
Alors d'abord j'étais reporter dans un journal à Agua Prieta.
Y después nos entró la inquietud de poner un periódico aquí en Naco porque no había.
Alors après on s'est posé la question de comment faire un journal ici à Naco parce qu'il n'y en avait pas.
Ça vous demande beaucoup de travail?
Mucho. Gracias a Dios.
C'est beaucoup de travail, grâce à Dieu.
Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites tous les deux?
Yo me encargo de corretear las notas, de buscar notas. Entrevistas, photos, y ella se encarga de redactar todo.
Donc moi je vais sur le terrain, je vais chercher l'info, et puis elle rédige après.
Sí, ella trabaja fotos, diseño y...
Et elle fait la photo et la mise en page aussi.
Et voilà le travail. Voilà comment s'élabore le Mirador à Naco, sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Je me souviens, j'ai oublié le nom de ce journal, mais il y a un auditeur tout à l'heure qui nous appelait depuis San Cristobal de las Casas, dans le Chiapas, et je me souviens d'un journal, un tout petit journal comme celui-là, qui était le journal qui transmettait les nouvelles du sous-commandant Marcos et de le ZLN. C'était le journal qui avait été choisi par Marcos pour propager ses nouvelles, pour donner des nouvelles. Et le monde entier, toutes les télévisions du monde, toutes les radios du monde, tous les journalistes, tous les correspondants du monde étaient autour de ce tout petit journal pour avoir des informations. J'espère que ça arrivera un jour à nos amis de El Mirador. Alors évidemment, la grande affaire, c'est ce qui se passe dans le coin. L'actualité, c'est très très souvent autour de la guerre des narcotrafics, parce que dans la région où nous nous trouvons, des bandes s'affrontent régulièrement, et c'est pas très tendre ces affrontements. Au passage, on descend quelques flics, quelques magistrats, quelques journalistes, et puis si on est dans l'axe de tir, ben il se peut qu'on se prenne une balle perdue. On meurt beaucoup dans le narcotrafic. 9000 morts depuis 2001 quand même dans ces régions, et en seul mois de mai 2007, 270 exécutions de policiers, magistrats, journalistes, enfin tous ceux qui dérangent, mais aussi, je le disais, des civils qui peuvent se ramasser une balle perdue. C'est donc des régions assez dangereuses, beaucoup de tensions, et le narcotrafic a autant qu'en Colombie, ou encore peut-être davantage qu'en Colombie, une emprise et une domination sur ce pays. El Mirador.
Nosotros nos abstenemos de hacer crítica contra los narcotraficantes, porque la verdad sentimos temor a cómo están las cosas aquí en México.
Nous, en ce moment, on fait attention de pas trop critiquer les narcotrafiquants, parce qu'en ce moment, on craint un peu, vu la situation ici au Mexique.
C'est ça, parce que je vois le titre d'aujourd'hui, là, du Mirador. Donc, guerra al narcotráfico en la región. Ça, c'est, tout le monde comprend, guerre au narcotrafic dans la région. Ça, c'est le gros souci.
Podría decirse que sí.
207 kilos de marijuana découverts par la FI à Naco.
À Agua Prieta, ils ont arrêté un millionnaire qui trafiquait l'héroïne.
Dis donc, mais il faut faire attention, c'est dangereux, ça, non?
Pues, lo que pasa es que no estamos nosotros agrediendo a nadie. Simplemente estamos poniendo para poder vender el periódico.
Ben nous, c'est juste les faits. On va pas au-delà des faits. comme ça, mais ça fait vendre en même temps, donc il faut bien qu'on en parle.
Que lo hagan las autoridades.
Donc là, c'est à la police de dénoncer les choses, pas à nous.
C'est la police ici qui vous met sur les affaires. Todo lo da la policía.
Oui, c'est la police qui nous donne toutes les infos.
Oui, ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez comme sujet? Donc, vous avez les narcotrafics et vous avez les migrants, évidemment.
Oui. Mm-hmm, claro. Bien sûr.
C'est la ville des migrants ici, Naco.
Aquí se le llaman pollos.
Ici, on les appelle les poulets.
Les pollos.
O mojados. Hein.
Ou les mouillés, los mojados.
Cuando tienen que cruzar por el río Bravo, se tienen que mojar.
On les appelle comme ça quand ils traversent par le río. Bravo, parce qu'ils sont obligés de se mouiller.
Los de la patrulla fronteriza tratan muy mal a los migrantes.
Les patrouilles là, de la frontière, du côté américain, ils traitent très mal les migrants.
Los cazan como animales.
Ils les chassent comme des bêtes, comme des animaux.
Nos ha tocado a mi esposa y a mí cuando vamos a Estados Unidos, que tienen la Border Patrol hincados a los migrantes, a mujeres y niños hincados con las cabezas en la mano en la cabeza.
Nous, on l'a vu avec ma femme.
Como delincuentes.
Quand on passe la frontière, on voit bien quand ils arrêtent les migrants, ils leur font mettre les mains sur la tête.
Les femmes et les enfants aussi.
También niños, niñas, señoras, de todo.
Des femmes.
Des gamines.
Creo que no lo golpean, pero sí no lo dejan dos días casi sin comer. Un día, dos días.
Je sais pas s'ils les frappent, mais en tout cas, ils leur donnent pas à manger pendant un ou deux jours.
Donc, parmi les migrants, là, il y a régulièrement des morts.
Al cruzar, hein?
En traversant, oui.
Es la industria del pollo.
C'est l'industrie du poulet.
Así dicen, ¿no?
C'est comme ça qu'on dit, oui.
Qu'est-ce que c'est sympa ici. Il y a la dame.
D'accord.
Notre consoeur qui est en train de nous prendre en photo. Mais là, oui, il y a deux haut-parleurs, là, par terre, qui met sur sa voiture pour annoncer. C'est la vraie presse hurlée, quoi. C'est la vraie presse criée. Alors, quels sont les grosses affaires sur lesquelles vous avez travaillé, que vous avez sorti un peu?
Sacamos la corrupción en la administración pasada de un exalcalde.
Donc nous, on a dénoncé la corruption du maire précédent.
Hemos estado presentes en operativos de los federales antinarcóticos aquí en Naco cuando llegan helicópteros, bajan persiguiendo vehículos.
Alors des fois aussi, on assiste à des descentes de police en hélicoptère pour arrêter les trafiquants de drogue, à des opérations policières antinarco.
Y cosas buenas también que ocurren en el pueblo, ¿no? Porque no publicamos nada malo, publicamos también las obras y las cosas buenas, ¿no?
Mais nous aussi, on fait pas que ça, on s'occupe aussi de tout ce qui se passe ici dans le village, on donne pas que les mauvaises nouvelles.
Todo es trabajo.
Tout ça, c'est du boulot, c'est notre boulot.
Y nos gusta el trabajo.
On aime notre travail.
La base jesuit.
Guerra! Guerra al narcotráfico en la región!
Autant de Pancho Villa enchantait la carabine 30-30, et bien aujourd'hui, il doit sans doute y avoir un corrido sur la corne de bouc. Qu'est-ce que c'est la corne de bouc? Et bien c'est cette arme qu'on appelle AK-47, et dont le chargeur, si vous voyez, est en forme et courbe comme ça. On dit en forme de corne de bouc, c'est l'arme préférée des narcotrafiquants, et on dit que c'est l'arme... c'est une arme qui a été créée au temps des soviétiques, et c'est une arme qui aurait tué le maximum d'êtres humains depuis l'invention des armes. En tous les cas, je suis presque sûr qu'il existe un chant en hommage à la corne de bouc. Je dis bien hommage, tant on va le voir à travers les corridos, les faits et gestes des narcotrafiquants sont des épopées maintenant. Et les narcotrafiquants sont devenus de véritables héros dans ce Mexique. À Tijuana, on va rencontrer quelqu'un qui s'y connaît, comme on dit, qui est Juan Carlos Ramirez. On le retrouve dans un appartement qui est juste au-dessus du passage de la frontière avec ce tourniquet et ce bruit de cliquet qui va nous accompagner tout au cours de cette rencontre, de cet entretien très, très joyeux, où on va essayer d'avoir, de comprendre l'histoire de cette forme d'expression, de chant, de chanson très particulier qui est spécifique à cette histoire et à cette région du monde. Pour la première fois de ma vie, je rencontre un professeur de corrido. De corrido.
Corrido.
C'est la première fois de ma vie.
No hay muchos.
Mais c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup.
Mais est-ce qu'il faut être musicien pour enseigner le corrido?
No necesariamente, porque el corrido es un género donde la música no es muy importante, es la letra.
Non, pas forcément, parce que dans le corrido, c'est pas la musique qui est importante, c'est le texte, c'est ah ouais. les paroles.
La musique est pas mal.
La música se repite mucho.
La musique est très répétitive.
Un peu. Parce qu'on a acheté une dizaine de disques, on sait plus si c'est le ils sont tous pareils.
Exactamente. Tienen que empezar a cantar para saber de qué corrido se trata.
Bien sûr, il faut attendre le début du couplet pour savoir quel corrido on écoute.
D'accord, donc sur le plan musical, c'est une forme fixe.
Bastante fijo, octosyllabo.
C'est assez fixe, oui, c'est octosyllabique.
Cuatro versos o seis versos.
Quatre vers ou six.
Porque, repito, lo que importa realmente es la historia, los mensajes de la historia.
Ce qui est important, c'est le message ouais. porté par les paroles.
Si pensamos en música como la cumbia, por ejemplo, si pensamos en música tropical de la América Latina, ahí las palabras, el mensaje, el texto no es tan importante, lo que importa es la música, por ejemplo.
Par exemple, si on compare à la musique caribéenne, à la cumbia, par exemple, ce qui est important, c'est la musique, c'est le rythme, c'est pas les paroles.
Bon, alors, ça a commencé quand, le corrido?
El corrido, hay varias teorías, pero la más aceptada es que deriva del romance español.
Il y a plusieurs hypothèses, mais la théorie la plus usitée, c'est que ça vient de la romance espagnole.
Porque tenemos romances en España que son interpretados como corridos en México, por ejemplo.
Parce qu'il y a des romances espagnoles qui sont jouées en tant que corrido ici au Mexique.
Ça, c'est une origine. Maintenant, quand est-ce que le corrido a gagné, s'est installé ici dans le pays?
Más popular y más estable a partir de la Revolución Mexicana. Pero pensamos que las primeras manifestaciones son posiblemente de mediados del siglo XIX.
Il est devenu populaire à l'époque de la Révolution, au début du siècle, au début du XXe. Il a commencé à se diffuser ici au milieu du XIXe.
L'éclatement, c'est la Révolution mexicaine, c'est-à-dire 1910.
Ouais.
En fait, les joueurs de corrido, les musiciens du corrido sont des troubadours et ils racontent une chronique sociale, ils racontent des choses vraies.
Muchos corridos sí se acercan a la verdad.
Beaucoup de corridos, effectivement, se rapprochent de la vérité.
C'est dans cette lignée des troubadours qui relaient des faits plus ou moins arrangés, mais qui s'inspirent de la réalité.
El más o menos arreglado es exactamente el espacio.
C'est des vérités plus ou moins arrangées.
Alors, 1910, Révolution mexicaine, quels sont les grands corridos de la Révolution?
Hay, principalmente, hay tres series de corridos, que son los corridos maderistas de Francisco.
Trois séries, les corridos maderistas
de Francisco y Madero.
De Francisco Madero.
Los corridos zapatistas.
Les corridos zapatistas.
De Emiliano Zapata.
De Emiliano Zapata.
Y los corridos villistas de Francisco Villa.
Y les corridos villistas de Pancho Villa.
De Pancho Villa. En mi opinión, la mejor serie es la de los corridos de Francisco Villa. Son los que han sobrevivido mejor.
D'après moi, les meilleurs sont ceux des faits de guerre de Pancho Villa. C'est les meilleurs et c'est ceux-là qui ont perduré.
Siete leguas.
Sept lieues. Le cheval.
Que Villa más estimaba.
Que Pancho Villa préférait.
Cuando ya silbar los tres.
Quand il entendait siffler le train.
Se paraba y relinchaba.
Il s'arrêtait pour hennir.
Siete leguas.
Le cheval de Pancho Villa. Celui qu'il préférait. Dans la station d'Irapuato, les horizons brillaient.
Hay combatido por
Ils ont combattu de façon formelle.
La brigada Bracamonte.
La brigade ennemie de Bracamonte, cette canaille. Dans la station d'Irapuato.
Los horizontes.
Et les horizons brillaient toujours.
Alors, comment tu expliques que le corrido ait résisté à la pression extraordinaire, justement, de la culture populaire états-unienne, au rock'n'roll, à cette pression extraordinaire? Comment se fait-il qu'il ait résisté?
Porque precisamente provee un mecanismo por el cual el mexicano en Estados Unidos puede defenderse, al menos simbólicamente. Es un espacio donde el mexicano gana.
Le genre a perduré parce que justement, c'est le corrido, c'est un style musical dans lequel le Mexicain peut gagner, peut être le vainqueur à la fin.
D'accord, donc face à la culture nord-américaine, c'est une résistance.
Sí, lo que pasa es que yo pienso que cuando se habla de corrido, tiene uno que especificar el corrido escuchado dónde. El corrido escuchado en Estados Unidos es un mecanismo de resistencia, ciertamente.
Par contre, il faut savoir d'où on écoute le corrido. Effectivement, on peut dire que le corrido écouté aux États-Unis est une musique de résistance.
Aún el corrido de narcotráfico o narcocorrido en Estados Unidos juega un mecanismo de proveedor de agencia del mexicano en Estados Unidos de manera semejante a la que lo hace el rap con la población afroamericana.
Particulièrement pour le narcocorrido. Aux États-Unis, c'est une musique de résistance comme peut l'être le rap pour les communautés afro-américaines.
Le narco-corrido, c'est les corridos qui parlent de narcotrafic, on a compris. Ça commence quand?
Bueno, los corridos con temática de narcotráfico comenzaron el más antiguo que he podido documentar fue grabado. Esto es muy importante. Grabado en agosto de 1934.
Alors, le premier corrido qui parle du trafic de drogue a été enregistré en 1934.
Ese lleva por título Por morfina y cocaína. Y después, dos meses después, otro corrido que se llama El contrabandista.
Le premier s'appelait Pour la cocaïne et la morphine, et le deuxième s'appelle Le contrebandier.
Entran dentro de la categoría de lo que se conoce como el lamento del prisionero. Es decir, son corridos donde el sujeto del enunciado está preso ya.
C'est un genre qu'on appelle lamentation du prisonnier parce que le héros est en prison.
En este tipo de corridos encontramos un cierto mensaje moral que aconseja alejarse del contrabando.
La caractéristique de ces premiers corridos dans les années 30 donc était d'éloigner les gens du péché.
Pour
de la morphine, de la cocaïne, de la marijuana et de l'alcool. Beaucoup de gens vont aujourd'hui en prison. Et de ces 20 derniers, trafiquants arrêtés, un ami m'a raconté. Qu'ils étaient de San Antonio et les autres de Del Rio. Seul celui qui est allé en prison connaît les cachots infects et les peines de cœur. Messieurs, dames, ce corrido n'est pas très intéressant. Mais il a été composé humblement par Manuel Huella Valdés.
El corrido narcotráfico surge cuando cesa la llamada ley Volstadt, la ley seca que le llaman.
Les corridos qui parlent de trafic de drogue apparaissent à la fin de la prohibición.
Antes de eso lo que teníamos era corridos tequileros, corridos que hablaban de contrabando de tequila.
Parce que jusque-là on avait des corridos effectivement mais qui relataient les faits des contrebandiers d'alcohol, de tequila.
En los años 40 alguna muestra del género, pero también de manera que me parece a mí interesante y sintomática. No hay corridos de narcotráfico, al menos que hayan pervivido en los años 50 y 60.
Alors, il y a quelques spécimens de corridos dans les années 40, mais étonnamment, il n'y a rien eu dans les années 50 et 60.
Y yo lo atribuyo a eso, a que esas son las fechas del llamado milagro económico mexicano.
On appelle ces années-là le miracle économique mexicain.
Postulo yo que el corrido con temática de narcotráfico surge en momentos de crisis económica.
Le narco corrido renaît au moment des crises économiques que traverse le pays.
Es el momento en que el régimen priista empieza a desquebrajarse a finales de los años 60 y principios de los años 70, después de Tlatelolco, por ejemplo, que vuelve a surgir el género con el corrido contrabando y traición.
C'est à la fin des années 60, début 70, au moment où le régime du PRI, du Parti Révolutionnaire Institutionnel, se casse la gueule, qu'apparaît le fameux corrido contrebande et trahison.
Salieron de San Isidro.
Ils ont quitté San Isidro, Californie. Ils arrivaient de Tijuana. Les roues étaient bourrées d'herbes mauvaises. Il s'appelait Emilio Varela. Et Camelia la Texane.
Passaron por San Clemente. Los
À San Clemente, non loin de Los Angeles, la police de l'immigration les a contrôlés. D'où êtes-vous? Where are you from? Elle était de San Antonio, Texas. Une femme capable de sacrifier sa vie pour son homme. Mais attention à ne pas la blesser. La trahison et la contrebande sont des choses qui ne se partagent pas. Ils sont arrivés à Los Angeles et ont filé à Hollywood. Dans une sombre ruelle, les roues, ils ont démonté. Ils ont livré l'herbe. Et leur argent, ils ont reçu. Alors Emilio a dit à Camelia, aujourd'hui je te quitte. Avec ta part, refais ta vie. Moi je pars pour San Francisco. Avec la femme de ma vie. Sept coups de feu retentissent. Camelia tue Emilio. La police n'a retrouvé qu'un pistolet abandonné. Et de l'argent et de Camelia. On n'a jamais rien su.
Le 4 juillet 1997, Amado Carrillo Fuentes, leader du cartel de Juarez, mourait. Mais comment? Comment est-il mort? Eh bien, il est mort dans la phase post-opératoire d'une chirurgie esthétique qui aurait changé son apparence si populaire dans les services de sécurité comme la Drug Enforcement Administration, DEA. On connaissait son visage et il y avait fort à parier qu'il était connu de tous les services de police des États-Unis comme du Mexique. Donc, Amado Carrillo Fuentes a eu l'idée de se faire changer le visage. Mais au bout de l'opération qui dura 8 heures, Carrillo Fuentes est mort suite aux complications cardiaques provoquées par un des médicaments. Les médecins impliqués furent exécutés quelques jours plus tard par des tueurs à la solde du cartel de Juarez. Eh bien, je suis sûr que cette histoire-là doit faire l'objet d'une série de corridos. Voilà comment se font les corridos à partir de ces sagas, de ces exploits, de ces personnages absolument terrifiants, sauf que une étude d'opinion a montré que 85% des jeunes adolescents veulent devenir des rois des narcotrafics au au Mexique. De là, l'interdiction de ces narcotrafics à la radio. Évidemment, comme le gars le disait tout à l'heure, à la radio, c'est peut-être interdit, mais pas dans mon camion. Et on se demande ce qu'on écoute dans un camion. Sinon, la radio. Et il faut dire aussi, on a beaucoup parlé de l'ALENA, de cet accord de libre-échange nord-américain. Eh bien, on trouve dans les causes de l'ALENA, on trouve le développement des narcotrafics à travers le Mexique. Le traité a entraîné la suppression de la majorité de l'aide publique à la production agricole et donc a directement contribué à l'implantation des narcotrafics dans les zones les plus sinistrées. 9 millions d'hectares de cultures illicites au Mexique. Eh bien, il faut écouler tout ça, plus ce qui vient d'autres pays amis comme la Colombie, plus toutes les drogues de synthèse. Tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait 30 milliards de dollars. Le revenu du narcotrafic, selon en l'an 2000, selon le directeur de la prévention des délits, Pedro Penaloza, 30 milliards de dollars, soit le quart du budget fédéral du pays. Et tout ça, eh bien, on en trouve des échos dans ces narcotrafics. On est avec Juan Carlos Ramirez à Tijuana, qui continue de nous expliquer, c'est passionnant, ce qu'est le corrido.
Los Tigres del Norte continúan, van claramente por dos vertientes. Una vertiente es corridos de narcotráfico y otra vertiente es corridos de emigración ya.
À partir des années 80, le groupe Los Tigres del Norte travaille sur deux thèmes différents qui sont d'une part les corridos sur le trafic de drogue et d'autre part les corridos sur les migrants.
Dans un premier temps, tu nous dis que les corridos, les narco-corridos étaient une condamnation du narcotrafic.
Si tenía una dimensión moral que creo yo que comenzó a desaparecer a mediados de los años 80 a partir del caso de Rafael Caro Quintero y de Enrique Quique Camarena, el agente de la DEA asesinado.
Cette dimension morale a disparu au milieu des années 80, avec notamment le corrido à Rafael Quintero, l'éloge de l'assassinat de policiers antidrogue américains.
Et ça fait un succès.
Los Invasores del Norte, à Rafael Caro Quintero.
En San José, Costa Rica.
À San José, au Costa Rica. Ils l'ont arrêté.
Ya se extendió la noticia por todo el mundo entero.
La nouvelle s'est répandue dans le monde entier.
Así el corrido comienza del señor Caro Quintero.
Et c'est comme ça que commence le corrido à Monsieur Caro Quintero.
Por matar un policía.
Pour avoir tué un policier états-unien.
El gobierno americano. Robarse una tapatía.
Avoir enlevé une jeune femme.
Hoy se encuentra procesado.
Aujourd'hui, il est condamné.
El es rey de las tierras, aunque se encuentre enjaulado.
Mais le lion reste le roi des fauves, même s'il est derrière les barreaux.
Dicen que quieren juzgarlo. Los gringos allá en sus lares.
Ils disent qu'ils veulent le juger là-bas chez eux, les gringos.
Nada más para llevarlo.
Mais rien que pour l'emmener là-bas.
Las manos van a sudar.
Ils vont baver.
Se me hace que van a hacerle.
Et moi, je peux vous dire quelque chose. C'est que ça lui fera pas plus que le vent sur la coiffure de notre cher Benito Juárez.
Rafael Caro Quintero.
Rafael Caro Quintero. Et maintenant de retour dans son pays. Mais s'ils pensent l'avoir maté de la tête aux pieds, alors pourquoi les Américains veulent-ils le récupérer s'il ne sait pas chanter en anglais?
La fiera ya está enjaulada.
Mais si la bête est en cage, on entend quand même les rugissements. Et au petit matin, Ses désirs seront accomplis. Et la meute doit écouter si elle veut rester en vie.
Le fueron grabados en su honor muchos corridos porque se enfrenta a Estados Unidos de alguna manera. Uh-huh. Existe esa dimensión y fue un héroe también porque es una persona que se presenta a sí mismo como un como una persona que llena el espacio que el Estado mexicano no puede llenar.
Alors, il est devenu un héros parce qu'il a osé se confronter aux États-Unis et c'est un héros aussi parce qu'il remplit un vide laissé par les par le gouvernement, par les institutions.
Porque lo que va a decir él es que él hace escuelas, es que él hace puentes, es que
él fait des écoles, il fait des ponts,
lleva electricidad a los pueblos y en buena medida es verdad.
Donc il amène l'électricité dans les villages et c'est vrai, c'est des choses qu'il fait vraiment.
Entonces ese espacio que el Estado en su crisis no puede ocupar es ocupado por la figura del narcotraficante. En épocas de crisis
et le rôle social que le gouvernement dans la crise financière qu'il traverse ne peut pas assumer est rempli par ces narcotrafiquants.
En épocas de crisis financieras, cualquier sujeto que pueda crear trabajos y fuentes de ingresos va a tener un lado heroico.
Pendant ces moments de crise, celui qui peut proposer du travail à des gens devient en quelque sorte un héros.
C'est le mythe de Pablo Escobar.
Exactement.
Oui, c'est tout à fait ça.
Qui a été un héros national en Colombie, qu'il est toujours.
Y también en los años 80 y 90, realmente los efectos no se veían en México. No había grandes índices de drogadicción en México. Entonces, el daño se percibía como que iba hacia Estados Unidos. Y eso le añadía más aceptación.
D'autant plus que le trafic de drogue était assez accepté ici au Mexique parce qu'on n'en voyait pas les méfaits et les dégâts. Parce que la drogue partait aux États-Unis et donc c'était les États-Unis qui payaient l'addition quelque part.
Mais aujourd'hui...
Ha cambiado. Y ahora por eso decía yo que tenemos que estudiar el narcocorrido de acuerdo a dónde se emite y dónde se escucha.
Alors ça a changé aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut analyser les effets du narcocorrido selon l'endroit où il est fait et il est écouté.
Justement, qui écoute le narcocorrido?
La base sont les classes populaires.
Donc la base c'est les classes populaires.
Pero es si ustedes van a un concierto de los Tigres del Norte, van a encontrar un corte social bastante amplio.
Mais aussi les professions libérales. Parce que si tu vas à un concert des Tigres del Norte, tu vas voir une fracture sociale à l'intérieur. Les classes populaires et les professions libérales.
Et muchos de los que escuchan van a seleccionar las partes que les llaman mal l'attention, van a seleccionar los pasajes heroicos, por ejemplo.
Donc certains vont être touchés par les passages héroïques.
O las partes que envidiarían, ¿no? Los pasajes donde hay gran afluencia económica, por ejemplo, o autos muy bonitos.
Certains vont être touchés comme ça par le côté clinquant et riche, par les belles voitures, par les belles femmes.
En cierta medida una fantasía, ¿no?
D'une certaine façon, c'est une fantaisie.
Mais c'est toujours aussi populaire aujourd'hui.
Si. Realmente, en cierta medida, es un fenómeno que también tiene características underground, ¿no? La gente lo escucha en la calle. La gente lo escucha en internet, por ejemplo.
D'une certaine façon, c'est une musique underground, parce qu'on l'écoute dans la rue, on l'écoute par les sites internet.
Y donde el valor simbólico muchas veces es que sea prohibido.
Une des forces symboliques, c'est justement de dire que c'est interdit.
Voilà, merci à notre narco-corridologue Juan Carlos Ramirez. Merci à Rodolfo Santos et à son épouse Del Mirador. C'était un reportage avec Guy Vanctil et Antoine Chao. Merci à Mike Davis, à Anne Vigna. Narco-balade avec ses troubadours qui font chanter les rois des cartels mexicains. C'était un article de Darmel Vincent dans le numéro 1 de la revue 21. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur la-bas.org. Et puis je vous rappelle pour Monica, vous êtes nombreux à nous avoir adressé un mail. Si vous voulez l'aider, eh bien vous adressez simplement un mail en indiquant Monica et on vous renverra un mail pour vous donner la marche à suivre pour l'aider. Le mail, vous l'adressez à daniel.mermet@radiofrance.com. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne, Éric Morin, Yann Chouquet, Raphaël Moutarde. ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry et Christophe Imbert attend vos messages au répondeur de la base J'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37.